France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Trois grands rôles cette année sur les scènes, les deux scènes de l'Opéra de Paris. Un premier disque, récital, chez Deutsche Grammophon, dont France Musique est le fier partenaire, accueilli dans une euphorie assez rare, je dois dire, par des critiques parfois blasées. J'ai lu, en préparant cette interview, des choses qu'on lit rarement. Une voix de ténor lumineuse, puissante, surtout d'une musicalité infinie. Certains n'avaient pas entendu cela depuis les débuts de Placido Domingo. Bonjour, Benjamin Bernheim.
Bonjour.
Nous recevons ce matin, sans conteste, le nouveau grand nom de l'art lyrique. Bienvenue pour la première fois, d'ailleurs, dans cette neuf de France Musique en direct. Hier soir, vous avez reçu l'un des chocs classica de l'année. Vous avez aussi les Diapasons d'or. Quelle année? Vous vous dites quoi? Enfin?
À la fin de l'année?
Enfin une reconnaissance.
Oh, pas forcément, mais c'était vraiment une grosse année. Je veux dire, la consécration.
Il s'est passé quelque chose ces derniers mois.
Oui, vraiment. Je pense déjà, ça a commencé avec Traviata que j'ai chanté à Covent Garden et à La Scala. C'était en janvier-février de l'année 2019.
Ça, puis je dois Garnier. Dire.
Puis à Garnier quelques mois plus tard, mais entre-temps, il y a eu surtout cette consécration qui a été Manon à l'Opéra de Bordeaux. Et ça, ça a été vraiment un choc, tant pour moi que pour ma carrière. Ça a été vraiment un très très grand moment. Et après est venue cette Traviata à Garnier.
Un Manon dans une mise en scène d'Olivier Py. Il y aura un Manon prochainement. Absolument. À Paris, cette fois mise en scène par Vincent Huguet. Et donc ce disque, un premier disque chez Deutsche Grammophon, je pense que ça fait très longtemps que cette prestigieuse firme jaune, comme on dit, n'a pas signé déjà un chanteur français, mais même un ténor, beaucoup en rêve.
Ça faisait un petit moment, ouais, effectivement.
Ça représente quoi pour vous, ce premier album qui porte votre nom avec ce label que vous avez peut-être vu
Moi j'en ai rêvé, moi je voyais les 33 tours de ma grand-mère dans le salon et je me disais si un jour je pouvais signer avec un label, si un jour je pouvais enregistrer, ce serait incroyable d'avoir mon nom à côté du grand label jaune. Et puis c'est arrivé, c'est vraiment, je m'y attendais pas du tout parce que je savais que de moins en moins de chanteurs signaient avec des grands labels. C'est difficile de vendre des disques aujourd'hui, c'est difficile de vendre de l'opéra, de la musique classique. Donc pour moi, c'était un rêve qui s'éloignait vraiment. Je voyais vraiment ce business-là devenait de plus en plus lointain. Et finalement, c'est arrivé. C'est arrivé par, comme on le dit souvent dans les carrières, il faut rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et j'ai vraiment, pour ça, rencontré les bonnes personnes au bon moment, qui sont venues m'écouter au bon moment, la bonne soirée où j'ai bien chanté et ça les a convaincus et c'était assez fou.
Benjamin Bernheim, derrière ce label de Deutsche Grammophon, il y a aussi un major, comme on dit, c'est Universal.
Universal, absolument.
Est-ce que ça veut dire, sinon des compromissions, ou en tout cas des compromis, où vous avez été libre de composer l'album de vos rêves?
Oh non, il faut en discuter, ça. Il faut discuter. Il y a des gens dont c'est le métier, absolument, de créer vraiment un profil de jeune chanteur, parce qu'il faut lancer un jeune ténor. Un nouveau ténor dans le milieu, c'est pas forcément facile. Et il y a des choses qui marchent et d'autres qui marchent pas. On le sait. Moi, mon rêve, c'était de faire un premier album tout français. Et on m'a tout de suite dit, d'ailleurs, dans un autre label qui m'avait approché avant, m'avait dit, c'est quelque chose qu'on peut pas faire dès le début. Il faut un tout petit peu mettre de l'eau dans son vin. Il faut mettre des choses très populaires aussi.
Il n'y a pas tant que ça.
Non, mais il faut faire Furtive à la Grima, faut faire des choses, voilà, pour au moins lancer le disque. Il faut que les gens puissent me comparer aussi aux plus grands. C'est-à-dire qu'en faisant ce premier album, je chante des airs qui ont été enregistrés des dizaines de fois par les plus grands, et je dois souffrir la comparaison avec les plus grands. Donc, mais c'était un risque à prendre, mais ça valait la peine.
Là, c'est moitié-moitié, air d'opéra français, air d'opéra italien, et un déchirant air de Lenski, de Eugène Onegin de Tchaïkovski. Mais c'est pas une compilation de tubes lyriques, même si vous l'avez dit, il y en a un. Attention, si vous n'avez jamais entendu, mesdames, messieurs, Benjamin Bernheim, ce sera peut-être maintenant sur France Musique, à 8h34, un choc.
Thank you.
Benjamin Bernheim est Nemorino dans cet air Una furtiva lacrima du deuxième acte d'Élixir d'amour de Donizetti, extrait de ce premier disque qui porte votre nom, Benjamin Bernheim. C'était l'Orchestre Philharmonique de Prague dirigé par Emmanuel Villaume.
Absolument.
Ce premier disque, qui comme tout premier disque est une carte de visite et qui porte donc votre nom, comment vous l'avez construit, imaginé? Vous nous avez dit que vous auriez voulu peut-être dans un premier temps faire 100% air français, mais quels sont les points communs entre ces airs, entre ces rôles?
Je crois que le point commun, c'est moi d'abord. Il fallait que ce soit représentatif de ce qu'a été mon début de carrière ces dernières années, comment j'ai construit ma carrière avec La Traviata, avec Nemorino, de ce que je chante aujourd'hui, La Bohème, Manon, Roméo qui vient bientôt, et puis surtout de ce qui va venir un peu dans le futur. Donc il y a quelques airs comme le Faust de la Damnation de Faust.
Que je n'ai pas encore fait sur scène.
Que je n'ai pas encore fait sur scène. Werther, que je n'ai pas encore fait sur scène finalement. Et aussi, par exemple, Louisa Miller. Là, on est vraiment encore très très loin. Louisa Miller, ce sera peut-être dans 10 ans. Mais je voulais chanter aujourd'hui Louisa Miller avec la sonorité que j'ai, les couleurs que j'ai dans la voix aujourd'hui, puisque c'est un air très particulier, c'est un air magnifique. Et je voulais que ce premier disque soit représentatif de d'où je viens et dans quelle direction je vais.
Un peu une introspection, voilà. Une analyse, c'est votre ADN,
ouais,
qui est ouvert.
Oui, c'est assez, d'ailleurs c'est très marrant parce que ça a été dit dernièrement dans une critique, c'est la première fois qu'on entend ma voix dans l'album, je dis toute mon âme est là, c'est parce que c'est l'air de Werther, et finalement c'est vrai que toute mon âme est là dans ce disque, ça c'est très représentatif de ce que je suis aujourd'hui comme artiste, avec les couleurs que j'ai à offrir et les couleurs que j'explore.
Vous avez 34 ans, vous êtes jeune, Benjamin Bernheim, votre carrière a vraiment décollé en 3 ans, explosé cette année à partir de ce Manon à Bordeaux, ouais. Cette Traviata, même si on vous avait vu déjà dans la Bohème à l'Opéra Bastille.
Absolument.
Avec un costume de cosmonaute intergalactique qu'on reverra prochainement. Mais 34 ans, mais vous avez, on a le sentiment quand même que vous avez aussi pris votre temps.
Oui, parce que c'est pas si jeune que ça. Il y a des carrières qui commencent beaucoup plus tôt. J'ai eu la chance d'entrer dans l'Opéra Studio à Zurich il y a exactement 11 ans, pour être précis, et de tout de suite entrer dans la troupe de l'Opéra Zurich, où j'étais avec les plus grandes stars. Donc, dans la troupe de l'Opéra Zurich, il y avait Cecilia Bartoli, Thomas Sampson, Jonas Kaufmann, Piotr Beczala, j'étais entouré, et Javier Camarena, qui venait de sortir, lui, de l'Opéra Studio, et qui entrait dans la troupe. Donc, j'étais un bébé ténor, entouré de toutes ces grandes stars. J'ai beaucoup appris avec eux, mais j'ai aussi était frustré, j'ai dû vraiment attendre pour avoir ma chance et mon temps. Ce qui m'a beaucoup apporté, je pense, c'est de ne pas trop chanter trop tôt. Donc ça a été une chance pour moi de pas chanter trop tôt, de trop grands rôles. Ça m'a frustré, mais en même temps, je pense que ça a été très bénéfique à la fin. Ça m'a permis vraiment de grandir avec le temps, sans brûler les étapes.
Vous venez de citer Piotr Beczala, que vous avez croisé à Zurich. Est-ce qu'il fait partie de vos modèles, si vous en avez?
Ah, pour moi, Piotr Beczala, c'est le ténor classique qui est un exemple pour toutes les générations de chanteurs, surtout de ténors, parce qu'il a, maintenant c'est fou, il a atteint la cinquantaine dernièrement, et sa voix est d'une fraîcheur incroyable, et il a prouvé qu'on peut tenir sur la longueur en étant très intelligent dans la prise de rôle, dans les choix du répertoire, et ça c'est vraiment, Piotr pour moi c'est un grand exemple d'intelligence de carrière, parce que c'est vraiment une voix de ténor. Comme on peut se l'imaginer, une voix de ténor, c'est pas un ovni comme Jonas ou Placido qui ont été vraiment des voix très particulières. Pour moi, Piotr, c'est vraiment comme Nicolas Hegeda, c'est le ténor qui, avec le temps, a montré que on peut vraiment durer en faisant les bons choix.
Ça vous agace quand on vous compare en lisant quelques articles écrits ces derniers mois et notamment sur ce récital, il y a quand même un nom qui revient souvent, ouais. Le ténor français à la voix puissante, c'est le nouveau Roberto Alagna.
Non, ça m'agace pas. Lui, ça l'agace parce qu'on s'est croisé à Vienne pour les 150 ans de l'Opéra de Vienne.
Et qu'il ne mâche jamais ses mots.
Exactement. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'ils ont à appeler le nouvel Alagna, Et je lui dis oui. Puis en plus, en général, le nouveau, il finit jamais très bien. Donc, j'aimerais qu'ils arrêtent vite de dire ça. Mais en même temps, c'est un grand compliment parce que ça prouve que je ma façon de chanter aujourd'hui. Déjà, le répertoire français rappelle à certaines personnes le jeune Alania, ce qui est un grand compliment. Et je m'inscris vraiment dans la lignée de cette façon de chanter le français après Georges Thill, après Roberto Alania. Ça a du sens qu'on me compare à Roberto, parce qu'effectivement, le répertoire français, c'est lui qui m'a donné envie de le chanter.
Le répertoire français, le voici avec ce rôle si important. Voici Jules Massenet.
Fait rêve où nous sommes deux seulement. Tiens, Manon, en marchant, je viens de faire un rêve. En fermant les yeux, je vois là-bas une bleue tête, une maisonnette toute blanche au fond des bois. Sous ces tranquilles ombrages, éclairs et joyeux ruisseaux, où se mirent les feuillages,
Nous sommes à Paris, rue Vivienne, deuxième acte de Manon de Jules Massenet avec le chevalier des Grieux qui est Benjamin Bernheim, extrait de ce disque paru chez Deutsche Grammophon, l'orchestre philharmonique de Prague dirigé par Emmanuel Viaume. On va parler de Manon, d'abord ce répertoire français dont on a déjà parlé. Qu'est-ce qu'il exige par rapport à l'italien, par rapport à l'allemand ?
Je crois que tous les répertoires exigent un travail de fond et un sérieux, je pense, pour la prononciation, pour le public, quel qu'il soit. Moi, j'ai chanté, par exemple, mon premier Faust, je l'ai chanté en Lettonie. Il n'y avait pas forcément beaucoup de Français dans le public. Et après, je l'ai chanté à Chicago, d'ailleurs, avec Emmanuel Villaume. Et donc, je pense que, quel que soit le répertoire, il faut vraiment le travailler. Il faut être sérieux dans la prononciation.
Il y a une spécificité, quand même, dans le français?
Oui, je pense qu'il y a beaucoup de nasales, il y a beaucoup de mots, beaucoup de nasales, beaucoup de choses qui font que, pour des non-francophones, c'est compliqué de jongler tant avec la précision de la prononciation et les demandes de technique en termes vocal. Mais à la fin, je pense que c'est un travail, d'ailleurs, je leur dis par rapport à Roberto Alagna, Roberto a prouvé qu'on pouvait le faire. Et il avait une voix qui se prêtait tellement bien à l'italien et qui en même temps chantait le français comme personne. Donc c'est possible. Il faut vraiment le travailler, comme quand je chante du russe. Je travaille toujours la prononciation le plus possible jusqu'au dernier moment avec des russophones, avec des gens qui parlent la langue pour m'imprégner un peu de la sonorité. Je crois que pour le français, c'est la même chose. Il faut travailler, il faut écouter le français, il faut écouter les francophones parler pour l'avoir dans l'oreille.
Comme Deutsche Grammophon, comme France Musique qui soutient ce disque, l'Opéra National de Paris a eu un grand coup de cœur pour vous, Benjamin Bernheim. Alors, il y avait eu déjà cette bohème interstellaire qui reviendra en juin, juillet, dont on reviendra, on écoutera un extrait pour se quitter tout à l'heure. Mais il y a Manon de Massenet, mise en scène de Vincent Huguet, c'est du 29 février au 10 avril. Il y a eu cette Traviata, mise en scène par Simon Stone avec Pretty Yende, que vous allez d'ailleurs retrouver. Ça fait trois productions à l'Opéra de Paris cette saison. Trois productions, d'ailleurs, vous me disiez, qui se passent toutes les trois à Paris.
Oui, absolument. Enfin, trois opéras où l'histoire se passe un peu, l'action se passe un petit peu à Paris. Oui,
c'est retrouvailles d'abord avec Pretty Yende, ou cette alchimie qui s'est passée à Traviata, qui a été un événement en début de saison à Paris. Comment ça s'est passé? C'est la première fois que vous chantiez ensemble, vous chantez deux productions cette saison?
C'était la première fois qu'on chantait ensemble. En même temps, ça peut pas mal se passer parce qu'elle est tellement adorable, c'est quelqu'un de tellement merveilleux pour travailler que ça pouvait pas mal se passer. Et puis, je pense que ce qui est intéressant dans le milieu de l'opéra, quand on fait le métier qu'on fait, c'est que même si on retrouve certains collègues, chaque nouvelle production, chaque nouvel opéra, c'est un nouveau mélange, c'est une nouvelle recette, c'est un nouveau, quelque chose de nouveau. Donc là, on a créé une alchimie dans Traviata et on va en créer une nouvelle, une autre, une différente dans Manon, avec d'autres sonorités dans une autre maison, puisqu'on sera plus à Garnier, là, on sera à Bastille. Donc ça va demander d'autres choses, d'autres couleurs. Et moi, je me réjouis parce que c'est merveilleux de travailler avec elle et aussi de retrouver Ludovic Thésier qu'on avait
qui était également là dans la Traviata. Benjamin Bernheim, vous êtes né il y a 34 ans à Paris, mais vous avez fait des études en Suisse. On en parlait d'ailleurs il y a une heure, la vie musicale en Suisse. Mmh. Vous vivez à Zurich,
Absolument.
Avez été dans l'académie puis dans la troupe de l'opéra.
Exactement.
Vous vous sentez quoi, français, suisse?
Mais les deux. Moi, je suis très fier de mes deux passeports. Je suis très fier d'être français, très fier d'être suisse aussi. La Suisse, pour moi, c'est plus aussi une terre d'accueil. On accueille beaucoup d'artistes en Suisse. Et ayant grandi en Haute-Savoie et à Genève, je l'ai vu au Grand Théâtre à Genève. C'est vraiment une... Des artistes suisses existent, mais c'est pas forcément une nation qui produit beaucoup d'artistes, mais qui accueille beaucoup d'artistes. Et je le vois aussi beaucoup à Zurich, dans l'orchestre de l'opéra. Moi, j'ai tout un groupe de collègues français, allemands, américains. Il y a vraiment un mélange de tout. Et donc, c'est vraiment une belle terre d'accueil, la Suisse, pour ça, pour l'art aussi, pour les artistes. On se sent tous très bien là-bas. Et donc, voilà. Mais en même temps, fier d'être français, expat. Parce que expat, mais très fier.
Cette troupe de l'Opéra Zurich, qu'est-ce qu'elle vous a apporté?
Alors d'abord, au début, beaucoup de frustration, parce que comme je l'ai raconté plusieurs fois, quand je suis arrivé dans la troupe, j'étais le bébé ténor, et quand je demandais à mon patron, Alexandre Pereira, qui était à la Scala avant, qui maintenant va à Florence, je lui demandais quand est-ce que je peux chanter un Tamino, un Lenski. Il me disait, oh mais attends, parce qu'il y a tous tes collègues, il y a Becciala, Grigolo, Camerena et Jonas Kaufmann, je sais pas si t'as entendu parler, ils sont aussi dans la troupe et ils passent avant. C'était très frustrant, mais en même temps, j'ai énormément appris parce que c'était une chance. Tous les soirs, j'allais à l'opéra voir un opéra différent. Un soir, j'allais écouter un opéra baroque avec Cecilia Bartoli. Le lendemain, j'allais écouter un opéra allemand avec Thomas Sampson. J'écoutais Brinterfeld, j'écoutais Netrebko qui venait chanter Traviata. C'était une école, je dois dire, extraordinaire et une expérience magnifique.
Allez, Benjamin Bernagne, on quitte un instant ce disque Deutsche Grammophon. Il y a un autre disque qui est sorti cette année, Christophe Roussel, et talent lyrique Faust, et cette version du Faust de Gounod. Un extrait de Faust de Gounod. Il y avait également dans cette ère Anna Seguin, Juliette Mars, Le cœur de Namur, Les talents lyriques, dirigé par Christophe Roussel. Ça aussi, c'est un disque sorti cette année, Benjamin Bernheim. Votre voix, comment vous l'entendez? Vous l'aimez? Vous avez mis du temps à l'aimer?
Oh, j'ai mis beaucoup de temps à la tolérer parce que vraiment j'avais beaucoup de peine avec ma voix. D'ailleurs, même pour mon enregistrement avec Deutsche Grammophon, quand on a travaillé sur les patchs après, écouter ma voix, c'était très compliqué parce que j'entendais tous les défauts, tout ce que je n'aimais pas entendre, tout ce que je ne voulais pas, la façon dont je ne voulais pas chanter, je l'entendais. Donc j'ai dû faire confiance à quelqu'un qui est venu d'ailleurs, c'est ma coach à Zurich, Carrie-Anne Matheson, qui est pianiste et chef de chant à l'Opéra de Zurich, qui est venu pour être mes oreilles, parce que je me jugeais tellement durement que j'aurais pu passer tout le temps de l'enregistrement sur un air, tellement je pouvais pas accepter que ce soit pas parfait. Et heureusement qu'elle est venue, parce qu'elle m'a permis de tourner la page. Emmanuel Villaume aussi, avec son expérience, m'a dit au bout d'un moment, faut tourner la page et faut accepter que c'est une proposition. C'est un air. On propose, c'est une version, et puis il faut passer à autre chose.
Vous n'avez pas fait le Conservatoire supérieur à Paris, pas d'académie en France, mais Genève, puis Zurich. Ne pas être de la bande, c'est quelque chose qui...
Ah oui,
c'est un reproche qu'on vous a fait, ou c'est quelque chose...
Moi, je l'ai entendu, oui, entendu, j'ai bien entendu.
C'est fini maintenant.
Maintenant, tout d'un coup, on m'aime bien, mais c'est tant mieux, je suis très content. Mais au début, j'entendais, mais vous n'avez pas fait l'atelier lyrique, vous n'avez pas fait le Conservatoire. Mais vous venez d'où? C'était plutôt de la curiosité, mais surtout, je pense que ce qui a surpris, c'est que personne ne m'attendait, personne ne m'a vu venir, à part dans un répertoire un peu plus spécialisé. Finalement, ça m'a fait du bien aussi de grandir ailleurs qu'en France, et ce qui m'a permis aussi d'entrer par la grande porte finalement.
Furto non accora
Et ici, Benjamin Bernheim et Rodolphe, Rodolfo, dans la bohème de Puccini, extrait, autre extrait de ce disque Deutsche Grammophon, dont France Musique est partenaire, l'Orchestre Philharmonique de Prague, dirigé par Emmanuel Villaume. On vous entendra dans la bohème de Puccini, reprise de cette production de Klaus Guth, en juin à l'Opéra Bastille. Manon de Massenet, c'est du 29 février au 10 avril à l'Opéra Bastille également, et ce sera enregistré par qui? Par France Musique. Et puis si vous êtes à Berlin, que vous nous écoutez à Berlin, Monsieur Bernheim sera dans la Bohème et dans Traviata dans les prochaines semaines. Traviata également à Vienne en juin et les débuts au Met à New York la saison prochaine. Mais ça, c'est une autre histoire et vous reviendrez, Benjamin Bernheim, pour nous en parler.
Avec
merci.
Grand plaisir. Merci
beaucoup.
À vous.
Demain, notre invité sera Geoffroy Jourdain, c'est Ludovic Auger et Alexandre Billard qui étaient à la technique. Salomé Coq, Marion Guillemet et Margot Muller ont préparé cette émission. David Travailleur l'a réalisée. La réponse à notre jeu, Marimba, c'était l'instrument de percussion qui jouait la danse macabre de Camille Saint-Saëns avec un piano. Je vous retrouve demain. Très bonne journée sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.